Donc, vous le savez peut-être, les personnes qui ont une déficience visuelle, et même s'ils ont un niveau de scolarité comparable à celui de la population générale, sont proportionnellement beaucoup moins nombreuses à occuper un emploi. Donc, c'est pour ça que l'INCA, un organisme caritatif incontournable pour l'aide des personnes aveugles, vient nous parler de sa campagne nationale sur l'employabilité des personnes vivant avec une perte de vision. Alors, il y a beaucoup de monde en studio. Je saluerai d'abord Sarah Rouleau, qui est consultante en communication et philanthropie à l'INCA.
Bonjour.
Bonjour, Sarah Rouleau. James Bergeron, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous avez témoigné dans cette campagne-là. Vous êtes ingénieur à la retraite. Vous avez travaillé pendant 16 ans chez Air Canada.
C'est ça.
Et devant moi, ben enfin, je vous le dis, là, vous le savez peut-être pas, mais il y a Marilyn Gélina. Vous avez peut-être croisé son histoire. Madame Gélina est infirmière et elle a perdu son emploi après un diagnostic de perte de vision. Bonjour, Marilyn.
Bonjour.
Ben merci de participer à cette campagne à vous tous. On la trouve belle, hein, si on l'a croisée. Il y a toutes sortes de messages. En fait, je commencerai d'abord avec vous, Madame Sarah Rouleau de l'INCA. Pourquoi l'INCA a choisi de lancer cette campagne à ce moment-ci?
Mais en fait, pourquoi en ce moment? Parce que c'est le mois national de la sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées. Donc, on a profité de l'occasion pour lancer notre campagne au mois d'octobre. Mm-hmm. Pourquoi une campagne sur l'employabilité? Pourquoi on trouvait ça important? Bien, comme vous l'avez dit, il y a un fort taux de non-emploi chez les personnes qui ont une déficience visuelle. Donc, c'est seulement 38 % des personnes qui vivent avec une perte de vision et qui sont aptes à travailler, qui travaillent, donc c'est très peu. Et pourtant, de nos jours, avec les technologies, la réadaptation
le
et tout...
Le télétravail?
Oui, il y a vraiment... travailler avec une personne qui a une déficience visuelle, c'est comme travailler avec n'importe qui. Donc, il n'y a pas de raison que ce taux-là soit aussi faible. Et malheureusement, bien, il y a près de 50 % des personnes qui vivent avec une perte de vision qui vivent avec un faible revenu, donc avec 20 000 $ et moins par année. Donc, c'est important pour
c'est
nous
important,
de parler de l'employabilité des personnes qui vivent avec une perte de vision.
Oui, puis j'ajouterais, vous avez aussi demandé une enquête chez Ipsos et on apprend qu'à compétence égale, 70 % des Canadiens embaucheraient une personne voyante plutôt qu'une personne aveugle.
Oui, mais c'est ça. En fait, le principal obstacle au non-emploi des personnes qui vivent avec une perte de vision, ce sont les préjugés puis les mythes qui continuent d'exister, malheureusement. Et effectivement, cette statistique-là est très surprenante, mais elle est due en grande partie à la méconnaissance des employeurs ou même des collègues de travail.
Donc, vous êtes là pour mieux nous faire comprendre cette réalité,
oui,
démystifier, faire tomber les mythes.
Exact.
Bon, écoutez, j'ai au téléphone un employeur qui a compris qu'une personne aveugle, eh bien, ça faisait toute la différence. Et je veux la présenter parce que je ne l'ai pas encore fait, si vous permettez. Il s'agit de Natalia Di Battista, qui est l'ancienne employée de James, qui est avec nous en studio et qui est chef de service ingénierie cabine chez Air Canada. Bonjour, Madame Di Battista.
Bonjour.
Battista, pardon, je suis désolé.
Pas de problème.
Merci de votre compréhension. Écoutez, j'aimerais ça qu'on parle tout de suite de votre expérience avec James, puisque, bon, on a tendance à donner la parole aux gens qui sont moins présents parce qu'on ne veut pas vous perdre, on veut que vous soyez avec nous et c'est si heureux qu'il y ait un employeur comme vous qui soit compréhensif. Donc, vous avez travaillé avec James pendant combien de temps?
Je dirais environ 6 ans.
Mm-hmm.
Mais je l'ai côtoyé beaucoup dans ses autres emplois aussi.
OK.
James m'a ouvert les yeux à moi, je pourrais dire. Je dis toujours que les gens qui sont non-voyants, ils n'en ont pas de limites. C'est nous qui leur imposons des limites, malheureusement.
Mais on entend... Donc, c'est un employeur qui dit ça. Là. Comment vous réagissez aux 70 % de personnes qui préféraient ne pas embaucher des personnes aveugles?
Mais je pense qu'il y a de l'incompréhension. Mm-hmm. Ces gens-là qui travaillent savent qu'est-ce qu'ils ont besoin pour travailler. Et souvent, c'est un téléphone ou un appareil portatif avec voix, un laptop.
Oui. Ou avec une synthèse vocale.
Exactement. Et c'est tout. Il n'y a aucune grosse adaptation. C'est de les... les mettre à l'aise. Ils sont capables de dire ce qu'ils ont besoin pour travailler. C'est des gens comme vous et moi tous les jours.
Oui. Ben, écoutez, je vais vous prendre au mot. Il faut entendre les personnes d'abord et avant tout, leur parler. Et donc, je me retourne vers James Bergeron. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre votre ancienne employeuse qui était assez compréhensive?
Oui, c'est ça. L'idée, c'est de partager toutes les informations avec eux autres,
oui.
d'être capable de communiquer les besoins. Les besoins, je suis pas une personne spéciale, mais j'ai une personne avec les besoins spéciaux, c'est ça.
Okay.
Et de partager ça, s'il y a des barrières, s'il y a des choses qui arrivent, parce que la technologie change tout le temps.
Mm-hmm.
Et puis, il faut avoir l'adaptation qui change avec la technologie. Je travaillais avec la compagnie pour comprendre ça, attendre ça, puis aussi avec les autres genres d'entreprises comme OPHQ ou peut-être comme... Linka
ouais.
ou des
Mais pour les gens qui nous écoutent, ça fait beaucoup. Je vais juste préciser, le PHQ, c'est l'Office des personnes handicapées du Québec, qui est l'organisme qui surveille les droits des personnes handicapées dans l'appareil d'État. Et Linka, c'est l'initiateur de cette campagne-là.
Oui,
donc,
exactement.
Sachez-le. James Bergeron, peut-être pour que les gens comprennent bien comment ça s'est passé, votre relation de travail, pouvez-vous nous décrire votre travail lorsque vous étiez chez Air Canada avec, avec Natalia qui est avec nous?
OK. Pour moi, je travaille dans le domaine de gérant de projet. Puis on faisait beaucoup des projets différents pour les avions.
Mm-hmm.
À l'intérieur, surtout dans la cabine, ce que vous voyez comme client, comme acheteur de billets, les tapis, les sièges, les écrans, toutes les genres, les toilettes, tout ça, pour être... le plus haut que possible pour nos clients.
Okay.
Alors, il y a toujours des projets qui changent tout ça. Ça s'arrête jamais, jamais.
Ah, le changement, c'est toujours c'est là.
Il y a toujours des travaux sur ça. Ça, c'est genre... Demande à Natalia, parce qu'on travaille ensemble.
Ben oui, Natalia, comment vous décririez ça?
Bien, nous, on s'occupe de la fiabilité de la cabine. Donc, tout ce qui est sous le plafond, au-dessus du plancher, puis entre les murs, on est responsable que ça fonctionne bien, que ça paraisse bien et pour le confort du client. Puis, on a beaucoup de projets, des projets de réparation, des projets pour améliorer la cabine. Et James était vraiment le chef de service en charge de projets. Donc, faire le suivi avec nos fournisseurs, que les pièces arrivent à temps. Suivre l'horaire des avions pour s'assurer qu'il y a bien un avion à par terre pour qu'on puisse faire une modification, qu'il y a les bons mécaniciens à la bonne place. Donc,
c'est un pro de la logistique. C'est un pro de la logistique, mais justement, avec ces adaptations que vous proposiez dans le milieu du travail, vous arriviez, James, à contrôler tout ça, à contrôler les effectifs, à contrôler les personnes.
Oui. À faire le suivi avec, les personnes qui font le job.
OK.
C'est moi qui acquiert les étapes, les démarches pour chaque projet, enregistrer ça, puis trouver la personne qui va faire le job et faire un suivi pour chaque, un line item pour faire ça à l'heure, à le temps, sur la date qui existe et... C'est ça le projet, jusqu'au commencement, jusqu'au fin, trouver les finances pour ça, tout ça.
Bon, mais c'est quand même une responsabilité de haut niveau. Natalia, donc, et sécuriser les employeurs qui nous écoutent, Monsieur Bergeron faisait ça, tout ça sans qu'on se rende compte qu'il était en situation d'handicap, si je comprends bien.
Exactement. James était intégré comme n'importe quel autre employé, un membre choyé de l'équipe. Il montrait beaucoup de choses aux gens de l'équipe aussi. Il n'y a eu aucune difficulté. Gérant de projet mieux que d'autres qui ont leurs yeux, souvent. Très bien intégré et moi je vous dirais il n'y a pas de différence entre vous et moi, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est vraiment nous qui imposons les limites à des gens non-voyants. ils n'en ont pas de limite. Ils vont tout apprendre. Il s'agit d'être bien confortable dans leur environnement, d'avoir les bons outils. Puis,
Tout se passe bien.
Tout se passe bien.
Tout décolle.
Tout décolle.
Écoutez, je reviendrai vers Sarah Rouleau, qui est à l'organisme INCA, qui lance cette campagne de sensibilisation. Évidemment, c'est une histoire heureuse là, qu'on entend.
Oui.
James, Natalia, supérieurs et
oui.
employés.
C'est notre but qu'il y ait d'autres employeurs comme Natalia oui. qui osent engager, embaucher une personne qui vit oui. avec une perte de vision puis qui constate qu'effectivement, c'est comme travailler avec n'importe qui. C'est ça qu'on vise, dans le fond, avec cette campagne-là. Oui. Parce que des fins heureuses comme ça, il pourrait en avoir plein s'il y a un minimum d'ouverture d'esprit pour lancer pour employer quelqu'un. Là.
Donc, j'aime ça que vous le lanciez, ouverture d'esprit.
Oui.
Je vais me tourner vers Marilyn.
Oui.
Marilyn, qui était une si nécessaire infirmière. Qui travaillons toujours avec des personnes en situation de handicap, qui voyons la santé, on sait à quel point les infirmières sont importantes. Est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots, parce qu'on l'a vu circuler là, dans votre campagne, mais est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots qu'est-ce qui s'est passé au travail pour vous?
Bien, moi, pour faire une histoire courte, j'étais plutôt infirmière auxiliaire au niveau du CLSC Antique à Montréal.
Oui.
Donc, j'étais en soins à domicile. Moi, j'avais besoin de
en
ma
plus.
Voiture, évidemment, pour travailler. Et en ayant le diagnostic, j'ai perdu le permis de conduire un mois plus tard. Et donc, je ne pouvais plus faire le travail que je faisais auparavant. Par contre, j'ai pensé que j'allais pouvoir me faire relocaliser ailleurs.
Bien, normalement.
Qui n'a pas été le cas, malheureusement. Mmh. Ma supérieure immédiate à moi voulait me faire une route à pied
okay.
que je puisse continuer de pratiquer, de faire partie de l'équipe.
Ouais.
Parce que, bon, je pense être une bonne employée parce que j'ai jamais eu de commentaires négatifs, peu importe où j'ai travaillé pendant les 9 ans où j'ai été infirmière auxiliaire. Donc, pour moi, c'est... Je suis convaincue aussi que ce n'était pas ça le problème parce que j'étais toujours engagée pour mes compétences et mes ouais. qualités. Mais malheureusement, c'est pas elle qui décidait de la suite. C'était
donc,
les ressources humaines.
C'est les ressources humaines du CIUS du Nord, c'est
oui.
ce que je comprends bien, qui ont offert aucune alternative, qui vous ont pas proposé des choses?
Bien, moi, j'ai eu une solution qui a été apportée aussi en collaboration avec une dame de l'Institut Louis Braille et Nazareth.
Oui.
Qui m'a suivi.
Qui est souvent une référence, hein, d'ailleurs, pour l'adaptation en milieu de travail ou de manière générale, des conseils pour toute personne qui perd la vue. Là.
Effectivement, elles sont là pour nous aider et adapter justement notre milieu de travail.
Voilà.
Donc, elle s'est présentée avec moi à certaines rencontres. On en a eu 2 ou 3 à mon souvenir. Et puis, elle a dit que je pouvais continuer à pratiquer, seulement j'aurais besoin d'un local.
Oui.
Parce que c'est sûr que pour moi, les déplacements sont difficiles.
Ouais.
Donc, les hôpitaux, on oubliait ça.
Ouais.
Mais en même temps, il y a ce qu'on appelle les soins courants au CLSC, qui sont exactement la même chose que les soins à domicile, mais c'est les patients qui se déplacent. Donc, ceux qui sont capables de recevoir les soins et se déplacer viennent au CLSC.
Et donc, sur tout le territoire, parce que là, on cherchait à vous localiser seulement dans le Nord, c'est ça?
Oui.
Mais est-ce qu'on aurait pu essayer de vous... amener un autre CIUS sur l'île de Montréal, est-ce que vous savez?
Non, mais quand on est employé d'un CIUS, on reste dans le CIUS
ah,
au
ouais.
complet.
Okay.
Il faut dire qu'il y a quand même plusieurs places où
ouais.
elle aurait pu travailler.
Ouais.
Tu sais, le CIUS, c'est grand.
C'est grand, mais c'est immense.
C'est grand.
Oui. Ouais, parce qu'il faut le dire, avec les dernières réorganisations, les territoires se sont étendus. Alors, vous
oui.
aviez, de manière inespérée, plus de CLSC, de points de service où vous pourriez travailler.
Oui.
Bon. Je me retourne vers INCA. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire dans cette situation-là?
Bien, en fait, comment je pourrais dire? C'est comme on l'a dit tantôt, les adaptations sont simples.
Mm-hmm.
Des fois, ça va être soit du matériel technologique, comme on a parlé de la synthèse vocale et tout. Puis souvent, c'est le centre de réadaptation qui, justement, va s'assurer d'aménager l'espace de travail ou dire ce qu'on pourrait faire pour continuer de travailler, comme ça a été le cas avec Marilyn. Et ensuite, on est chanceux au Québec parce que la Régie d'assurance maladie du Québec va payer la majorité de l'équipement.
Donc ensemble, il n'y a pas de coût réel pour l'employeur.
Pas vraiment. En tout cas, c'est pas un gros investissement parce que, justement, au Québec, avec la RAMQ, on est vraiment, vraiment, vraiment choyés. Et là, ben, ça aurait été d'écouter les conseils du centre de réadaptation, de travailler en collaboration plutôt que de se fermer. Dans le cas de Marilyn, je pense qu'il y a vraiment eu une fermeture, puis elle devenait plus comme une béquille, puis c'était trop compliqué, tu sais.
Donc, c'est ça l'argument. Hein. Si je comprends bien, les employeurs pensent que ça va être trop compliqué.
Oui, puis pourtant, ben ils pensent que ça va être compliqué, que ça va être cher, alors que c'est même pas eux qui ont à faire les adaptations. Tu sais, il y a vraiment les centres de réadaptation qui y vont puis qui vont le faire. Puis souvent, comme je vous ai dit, c'est pas un gros investissement. Fait que c'est un, je crois, des gros obstacles que les employeurs voient. Ils se disent « Ah, mon Dieu, ça fait super compliqué. » Puis ça ne l'est pas. Donc, c'est pour ça qu'on trouve ça important de le dire puis de le rappeler.
Alors, je pense qu'ils devraient avoir des visites dans les grandes entreprises où il y a plusieurs employés, qu'il y a toujours de la demande d'emploi de ces grandes entreprises-là, d'aller les visiter puis de leur parler puis de leur dire « C'est pas compliqué. »
Ça aiderait, hein?
Je pense que oui. C'est les campagnes de sensibilisation, ça l'aide beaucoup, mais je pense que les gens n'écoutent pas. S'ils n'écoutent pas, il faut vraiment se rendre sur place, envoyer des pamphlets, qu'ils voient puis qu'ils tiennent quelque chose dans leurs mains qui est concret, qui dit, ça ne coûtera pas cher, il n'y a pas de changement.
On va essayer d'aller les rencontrer le plus possible.
Voilà, ben c'est presque le mot de la fin. Pour plus d'informations sur votre campagne nationale sur l'employabilité des personnes vivant avec une perte de vision, on se rend au cnib.ca/fr. C'est bien
ça? Oui, sinon
inca.ca/employabilité
pour être vraiment là sur la campagne. Il y a des conseils pour les employés autant que les employeurs.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sarah Rouleau, James Bergeron, Natalia Di Battista, Marilyn Gélina, merci.
Merci.
Merci à vous.